France à Loire sur RFI.
La planète Terre a connu un Bouddha musulman, non, un Bouddha chantant, il était musulman, il s'appelait Nusrat Fateh Ali Khan. Les éditions 2001 ont lancé une collection, Voix du Monde, collection qui présente toutes les grandes figures des musiques du monde, emblématiques d'un style ou d'un pays ou d'un mouvement artistique. Le livre sur Nusrat Fateh Ali Khan a été écrit par Pierre Alain Beau, il a été remarqué par l'Académie Charles Cros. L'auteur et son éditeur Emmanuel Debecq sont nos invités dans ces musiques du monde pour présenter cette voix et pour présenter cette collection qui compte aussi Kate Enofeloso, César Yavora et Youssoundo. Oui, Emmanuel Debecq.
L'idée, c'est de choisir des artistes qui soient emblématiques, pas seulement d'eux-mêmes ou de leur carrière, mais d'un style musical, d'un pays ou d'une contrée musicale, enfin qui soient un peu comme des porte-drapeaux d'un mouvement artistique. C'est qu'à lire la biographie et la vie de ces artistes-là, on a envie de s'intéresser pas seulement à leur musique, mais peut-être aussi à la musique de tous leurs contemporains, de tout un courant musical. Enfin, je sais pas, je pense au tropicalisme avec Caetano, par exemple. C'est peut-être une porte d'entrée vers le tropicalisme et puis Salvador de Bahia, et puis le Brésil, et puis d'autres choses. Je crois qu'on a essayé de concevoir les bios de cette façon-là. On s'intéresse pas juste à une personne, on s'intéresse à tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle exprime, tout ce qu'elle charrie artistiquement.
Pierre-Alain Beau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dites en préambule, dans l'avant-propos du livre que vous consacrez à Nusrat Fateh Ali Khan, qu'à Tokyo, Nusrat est appelé le Singing Bouddha, donc le Bouddha chantant. J'espère qu'ils se souviennent que c'était surtout un soufi, que c'était quand même un homme de l'islam. Enfin, peu importe.
C'est une grande famille.
C'est vrai. Allez, va pour le Bouddha chantant. Qu'en Tunisie, c'était la quintessence du chant humain. Qu'à Los Angeles, c'est la voix du paradis. À Londres, c'est l'esprit de l'islam. Là, on se rapproche. À Paris, le Pavarotti de l'Orient. Et comment dit-on roi suprême du Kawali au Pakistan?
Le Shahenshah Kawal, le roi des rois, roi des rois des Kawal.
Pierre Alain Beau, vous avez eu la chance de rencontrer Nusrat Fateh Ali Khan, de le voir sur scène, mais aussi d'aller lui rendre visite chez lui au Pakistan.
La rencontre, elle s'est faite en deux temps. D'abord comme audience hallucinée au Théâtre de la Ville en novembre 85. J'habitais pas du tout Paris à l'époque, mais il s'est trouvé que j'étais à Paris pour quelques jours et puis que j'ai vu dans le métro cette physionomie assez mastodonte et énigmatique, musique soufie du Pakistan. Pakistan. Et je suis allé donc le voir. Et à l'époque, il était diablement inconnu par le public palichon. Et les trois quarts de l'assistance étaient des Pakistanais qui se sont comportés là-bas comme au Pakistan, en exprimant haut et fort leur appréciation, en descendant sur scène pour lui lancer pas mal de billets, en lui demandant de chanter telle et telle chanson. Et puis, dans une salle pigmentée de personnes qui entraient en transe, en vraie transe. D'une part, le cadre était complètement ahurissant. Puis, bon, bah, la présence de cette énigme mastodonte, hein, de ce grand bonhomme, gros bonhomme sur scène avec cette voix
qui vient du fond des âges.
Ouais, qui vient des âges et au fond de nous.
Il avait en plus une apparence de poupin en lançant son bras vers le ciel. Ça vous a frappé aussi la différence entre la voix et le physique, curieusement?
Oui, effectivement, cette complémentarité, contrepoint plutôt, comme contrepoint de cette voix aérienne et ce physique très, très, très costaud. À un moment d'ailleurs, une fois on avait fait une animation à la FNAC et on lui avait demandé, M. Nusrat, si vous étiez une fleur, que seriez-vous? Il a dit bonnement une rose, mais c'est vrai qu'il imaginait beaucoup plus en nénuphar, en lotus. Effectivement, cette beauté, cette grandeur sur flottant.
Alors, comment la Qawwali s'installe dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan ?
La Qawwali s'est installée au fil des siècles. L'islam est présent depuis 13 siècles en Asie du Sud. La Qawwali, en fait, c'est une rencontre entre la poésie amenée par les soufis, par les premiers mystiques de l'islam, essentiellement venus de Perse, d'Asie centrale, et puis une présence de musique sacrée, d'hymnes sacrés très enracinés dans les hindouismes, les religions hindoues, qui étaient très différentes du nord au sud, de l'est à l'ouest du sous-continent. Et cela a donné, par la grâce de personnes qui ont cristallisé un petit peu l'alliance en gros musique indienne et poésie soufie comme Amir Khusro, cette forme syncrétique qui aboutit actuellement au Qawwali, donc ce chant communautaire avec un soliste principal, un deuxième soliste, actuellement des harmoniums, il y a eu d'autres instruments auparavant, et puis ce chœur qui reprenait, qui clappe des mains, là, qui semble venir du Khorasan.
Pierre Limbaud, quand vous parlez de Nusrat Fateh Khan, vous dites que c'est un passeur entre plusieurs éléments, entre les générations, mais pas simplement.
Oui, parce qu'il a permis une réappropriation par les jeunes d'un vieux répertoire très lourd de sens, et surtout maintenant au Pakistan, en Inde et puis dans le monde. Mais aussi entre le sacré et le profane, c'était essentiellement une musique une musique qui se déroulait, qui se vivait comme un rituel dans les sanctuaires soufis. Ses parents déjà et quelques autres l'avaient fait un peu sortir de cet univers sacré, mais ça restait dominant, c'est ce qui lui donne son sens. Mais en même temps, en l'ouvrant sur un plan musical, en l'ouvrant à des publics différents, en l'adaptant à des rythmes plus rapides, ce qui est intéressant avec Nusrat, c'est qu'il a ouvert complètement ce Qawwali. Il a pu prendre le risque d'un écrin musical totalement différent, se risquant à plein de rencontres et plein de métissages musicaux, en sachant que lui, il était centré dans le message, dans la diffusion de cette belle bonne parole des poètes soufis, et c'est ce qui lui a donné sa direction durant toute sa trop courte carrière d'ailleurs.
Est-ce que vous avez discuté avec lui du fait que précisément sa musique avait été samplée dans bien des productions? Je me souviens même d'un film de Tim Robbins, Dead Man Walking, hein, où sa voix totalement aérienne illustre une scène de viol. Est-ce que par exemple, moi j'avais lu des choses à ce sujet, est-ce que vous pensez que la parole soufie peut se mélanger avec dans un film de fiction avec une scène aussi violente?
Non, là il a été pris au piège en fait. Là avec Dead Man Walking, il a été vraiment pris au piège par rapport à l'utilisation de sa voix sur les scènes de grande violence. Il avait donné son accord au producteur sans avoir vu vraiment le scénario. Et après effectivement, il s'est senti floué parce que pour lui, c'était pas du tout le propos de poème soufi, c'était pas du tout l'esprit du Kawali d'être mis sur ce genre de situation, de séquence. Le fait que sa voix a été utilisée dans mille et un cadres différents, alors moins extrême heureusement que celui-là, je dirais que c'est une conséquence avec tous les plus et les moins qu'on peut dire de son extrême générosité et de sa mission qui était de, dans tous les cadres, dans tous les accompagnements possibles, de propager cette parole. Mais effectivement, parfois, ça, il s'est pris au piège.
La dernière tentation du Christ. Alors, avant d'être popularisé par Peter Gabriel dans les années 80, qui tombe littéralement amoureux de sa voix, Nusrat Fateh Ali Khan chante essentiellement pour la communauté indo-pakistanaise quand il vient en Europe et notamment en Angleterre. Alors, comment expliquer l'engouement de l'Occident pour Nusrat? Parce que ça reste quand même du chant sacré, c'est pas extrêmement funky. Alors, on a peut-être une piste, parce que Nusrat avait une qualité, il avait une grosse capacité à s'imprégner des ambiances des pays dans lesquels il se trouvait et à en restituer un petit peu dans son chant dès le lendemain quand il était sur scène. Pierre Alain Beau.
Une fois au Japon, effectivement, comme au Brésil aussi, dès qu'on arrivait dans une chambre d'hôtel, eh bien, il allumait la télé, il écoutait tous les jingles, toutes les émissions qui pouvaient passer. Et en fait, il arrivait à capter le type de gamme, le type de structuration mélodique qui était alors diffusée. Et par exemple, au Japon, gamme pentatonique, le soir même ou le lendemain, il donnait des kawali sur une base pentatonique à 5 notes. Et en fait, il y avait une proximité que lui faisait de façon quasi, à un moment je le traite d'éponge musicale, quasi instinctif, et qui rendait en fait cette musique, son chant, son interprétation moins étrange.
Est-ce que Nusrat Fateh Ali Khan, depuis qu'il a disparu en 97, a laissé un héritage important, et maintenant qu'il n'est plus là, que se passe-t-il?
Ah ben, le kawali était effectivement très installé parmi les dévots. Le kawali était bon une des plus largement diffusées musiques, chants, expressions du soufisme musical en Inde et au Pakistan, et il le reste parmi les dévots. Nusrat lui a permis d'aller, bon c'est pas le seul, il y a les frères Zabri, Aziz Mian, il y en a d'autres, mais disons, c'est lui qui l'a donné ses lettres de noblesse et de sortir dans tous les milieux. Lettres de noblesse par le fait qu'il avait, à partir de sa force de formation classique de sa famille, il avait une capacité d'improvisation et de jouer par exemple certains rags pour la passion de la dernière tentation du Christ, qui l'a fait découvrir par aussi un public, bon, plus qu'international, mais aussi par un public pakistanais qui n'était pas du tout kawali à l'origine. Après, le fait qu'il ait intégré des sax, des synthés, des batteries ou d'autres instruments occidentaux dans l'accompagnement, y compris au Pakistan pour un public jeune, lui a ouvert d'autres portes. Le fait qu'il soit très proche, par exemple, de l'équipe de cricket du Pakistan quand elle a gagné la Coupe du Monde, ça lui a amené aussi énormément de, d'autres gens. Et c'est vrai que je crois qu'au Pakistan, ce qui a été important et ce qui fait qu'il est toujours vénéré énormément, c'est qu'il a, il a inscrit le Pakistan sur la carte musicale du monde. Comme
César Yavora, grâce à qui on sait où se trouve le Cap-Vert aujourd'hui, c'est sûr.
Oui, effectivement. Et puis, bon, par rapport au Pakistan, effectivement, je trouve que c'est très sain d'avoir effectivement cette autre approche du Pakistan qui représente en plus un islam beaucoup plus majoritaire que l'islam de certains barbus fondamentalistes et wahhabites.
Combien de générations de chanteurs chez Nusrat Fateh Ali Khan?
Ça fait 7-8 siècles.
7-8 siècles, donc, d'accord. Nusrat a fait des enfants ou pas?
Alors, Nusrat a une fille. A une fille qui, semble-t-il, son neveu que j'ai rencontré il y a quelques mois quand je présentais le bouquin au Pakistan, m'a indiqué que cette fille, Nida, qui maintenant est grande, hein, elle doit avoir 25 ans, à peu près 25 ans, était en train de sortir son premier album. Sauf que, bon, elle vit depuis une dizaine d'années maintenant au Canada, ça doit être certainement un album extrêmement mixé. Mais ses héritiers, dans la famille déjà le plus légitime est Rahat, cette voix aigrelette que l'on entendait quand on était encore très jeune au dernier concert que Nusrat a pu faire au Théâtre de la Ville, c'est son neveu.
Alors Pierre Alimbo, votre livre Nusrat Fateh Ali Khan, le messager du Kawali, a été remarqué par l'Académie Charles Cros, fait partie des coups de cœur de l'année 2008. Bah écoutez, pour un bouquin qui est sorti il y a 6 mois, c'est bien. C'est ça.
Non, c'est bien. C'est
oui, tout à fait. Alors ce que j'apprends, c'est que votre livre va être publié donc au Pakistan, et en anglais et en ourdou.
Ouais. Je crois que c'est une grande Nusrat et une grande fierté pour eux. Effectivement, c'est tellement rare qu'on parle du Pakistan en des termes moins caricaturales que la bombe, les attentats, que les talibans et d'autres, ou la mafia militaire, qu'en fait là c'était. Ben voilà, ils se sentaient, et à travers Nusrat, je crois, ils se sentent exister.
Si vous ne connaissiez pas Nusrat Fateh Ali Khan, aujourd'hui c'est chose faite, une voix absolument splendide, sublime, qui va au-delà des cieux, une voix qui s'est éteinte en 97, heureusement il reste des disques. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir sur scène, eh bien tant pis pour vous, puisque nous on a pu le voir. Je peux vous dire une chose, c'est que dans les coulisses, où qu'il se produise, les gens sur son passage regardaient leurs pieds. On ne regardait pas Nusrat Fateh Ali Khan dans les yeux parce qu'il était considéré comme un dieu vivant. Nusrat Fateh Ali Khan, le messager du Kawali ou de la Kawali, car semble-t-il le nom pourrait être féminin. C'est un livre de Pierre Alain Beau aux éditions 2001. Les prochaines sorties de la collection Voix du Monde sont Fela, Ravi Shankar, Alan Stivell, Manu Dibango, Gilberto Gil ou Astor Piazzolla. Les gens qui ont participé à cette émission aujourd'hui, Julien Leng, Romain Ferré, Pierre Vallée et Laurent Salloir. On se dit à lundi pour d'autres musiques du monde. Et si vous vous demandiez quel est ce morceau, eh bien c'est Mousse Mousse, c'est Nusrat Fateh Ali Khan qui à l'époque avait été remixé par les Anglais de Massive Attack. Bonne journée sur RFI, vous allez retrouver les informations dans quelques instants.